Il est 22h, vous êtes sur Europe 1. Tollé international après le détournement d'un avion de ligne et l'arrestation d'un opposant par la dictature biélorusse, les chefs d'État des 27 de l'Union européenne viennent d'adopter de nouvelles sanctions contre Minsk. Nous serons en direct de Bruxelles dès le début de ce journal. Elle s'appelait Stéphanie et a été tuée à coups de couteau en pleine rue à Hayange en Moselle. Son compagnon a été interpellé cet après-midi. Il sortait tout juste de prison. La victime avait porté plainte pour violence conjugale, plainte jamais traitée. Vaste opération de dépistage et de vaccination dans le quartier de Bacalan à Bordeaux, les autorités sanitaires tentent de circonscrire un variant jugé préoccupant. Fin ce soir du week-end de la Pentecôte, le premier depuis la réouverture des terrasses et des magasins, nous irons à Nantes où malgré le mauvais temps, les commerçants ont fait le plein de clients. Dans ce journal également, la guerre des plaintes entre Gérald Darmanin et Audrey Pulvar, on va tout vous expliquer. La liesse cet après-midi dans les rues de Lille, des milliers de supporters ont acclamé les joueurs du LOSC, tout juste sacré champion de France de foot. Et puis nous vous parlerons de ce groupe de métal qui a joué quelques notes bruyantes dans le jardin de l'Élysée face à Emmanuel Macron. La météo, elle va rester instable demain avec de nombreuses averses et du vent sur la moitié nord. Il y aura du soleil en revanche au bord de la Méditerranée, nous dira Anissa Haddadi. La Bourse de Paris, elle a débuté la semaine dans le vert, plus 0,35% à 6408 points. Et tous les détails à venir dans Top à Wall Street avec Didier Hameau de boursier.com. L'interview écho dans 20 minutes. Les campings viennent de connaître des week-ends historiques en termes de fréquentation. Pour en parler, Elisabeth Assayag et Emmanuel Duteil ont reçu Alain Calmet, président de European Camping Group. Enfin, on découvrira ensemble les unes de vos journaux de demain.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
C'est une scène incroyable qui s'est déroulée hier à 10 000 mètres d'altitude et qui depuis provoque un tollé international. Détournement, piraterie, voire terrorisme d'État. Les condamnations se multiplient après le détournement de cet avion Ryanair qui devait aller à Vilnius mais qui s'est posé sous la contrainte à Minsk, officiellement pour une alerte à la bombe. Cette dernière n'a jamais été trouvée. En revanche, les policiers biélorusses ont arrêté l'un des passagers, un journaliste de 26 ans, opposant au régime qui est ce soir en prison. Isabelle Horry, vous êtes notre correspondante à Bruxelles. Les chefs d'État européens viennent à l'instant d'adopter de nouvelles sanctions contre le régime de Loukachenko.
Oui, effectivement, les dirigeants européens qui sont réunis en sommet, c'est un hasard du calendrier à Bruxelles, viennent vraiment il y a quelques minutes d'adopter un texte qui concerne la Biélorussie. Alors je le découvre en même temps que vous. Les 27 demandent la libération immédiate de l'opposant biélorusse et de sa compagne. Ils réclament une enquête internationale de l'organisation de l'aviation civile. Ils vont aussi élargir la liste des personnes et aussi des entreprises qui sont dont les avoirs sont gelés en Europe, des personnes qui ont des Biélorusses qui n'ont pas le droit de voyager en Europe. Ils vont élargir leurs sanctions économiques dans les mois à venir. Et puis sur le plan aérien, ils demandent à toutes les compagnies européennes d'éviter l'espace aérien de la Biélorussie à l'avenir. Et ils vont aussi interdire l'espace aérien de l'Union européenne aux compagnies de la Biélorussie. Voilà, ce sont toutes les mesures qui viennent d'être annoncées à l'instant. Ça n'a pas pris beaucoup de temps, ça a pris 2 heures à peu près. Les Européens voulaient envoyer un message rapide et ferme, un message clair au président Loukachenko.
Merci beaucoup Isabelle Horry, correspondante d'Europe 1 à Bruxelles. L'Union européenne qui demande également la libération immédiate de Roman Protasevich, c'est ce journaliste de 26 ans et opposant au régime. Il dort ce soir en prison et dans une vidéo diffusée il y a une heure par la télévision publique biélorusse, on voit l'opposant s'exprimer face caméra. « Je suis passé aux aveux concernant l'organisation de troubles massifs », dit-il, visiblement sous la contrainte, en référence aux manifestations ces derniers mois contre la réélection contestée du président Loukachenko.
Europe Soir, le 22-22-30.
C'est le 43e féminicide en France depuis le début de l'année. Une jeune femme de 22 ans est morte sous les coups de couteau de son conjoint à Hayange, en Moselle. Marion Dubreuil, le compagnon de la victime, était activement recherché et il a été arrêté cet après-midi.
Oui, il a bien tenté de semer les forces de l'ordre. Il a arraché son bracelet électronique, a jeté son couteau dans une poubelle avant de prendre la fuite, laissant sa compagne pour morte sur le bitume. Il est soupçonné de lui avoir asséné au moins 5 coups de couteau. Ce sont les voisins qui ont donné l'alerte vers minuit, mais les secours n'ont rien pu faire pour ranimer la jeune femme. Le jeune homme de 23 ans sortait tout juste de prison après une condamnation pour des délits routiers à 1 an de prison. Le 12 mai dernier, il a bénéficié d'un aménagement de peine sous bracelet électronique à domicile. Il était donc revenu vivre avec sa compagne et leur petite fille de 4 ans. Mais d'après nos informations, la jeune femme était victime de violences conjugales. Elle avait d'ailleurs déjà déposé plainte contre lui au commissariat, c'était à l'automne dernier, pour menace de mort. Une plainte qui n'a jamais été traitée et d'après nos informations, elle n'a même pas été signalée à la justice.
Marion Dubreuil du service police-justice d'Europe 1. En Italie, le gouvernement promet de faire toute la lumière sur la chute d'une cabine de téléphérique qui a fait 14 morts hier aux abords du lac Majeur. L'unique survivant est un enfant de 5 ans qui souffre d'un traumatisme crânien et de fracture des jambes. Il est hospitalisé dans un état grave. Prenons maintenant la direction de Bordeaux, où les autorités sanitaires se sont lancées dans une course de vitesse dans le quartier Bacalan. Une cinquantaine de personnes y ont été testées positives à un variant très rare, jugé préoccupant. Un cluster que l'ARS tente de circonscrire avec une vaste opération de dépistage et plus tard de vaccination. Johanna Chabas, vous êtes sur place pour Europe 1. Comment tout cela se met-il en place ?
Alors ça a commencé vendredi dès l'annonce de ce nouveau cluster avec l'ouverture d'un centre de dépistage dans le quartier. L'objectif c'est de casser les chaînes de contamination et les habitants sont au rendez-vous. 300 tests sont effectués chaque jour. Comme Morgane, beaucoup de résidents veulent avoir l'esprit plus tranquille.
On n'a pas de symptômes, rien du tout. Maintenant c'est pour nous rassurer quoi. Il y a toujours la peur de le transmettre vu qu'on a un fils de 2 ans et que j'ai une grand-mère qui est assez âgée. Aussi la peur de l'avoir quoi. Quand on se dit que c'est à Paris, on se dit bah il est encore loin. Donc c'est rien quoi, mais quand on se dit c'est dans notre quartier, ouais, ça nous fait plus peur, ça nous atteint plus quoi.
L'école du quartier demande aussi à ce que chaque élève fasse un test avant de rouvrir ses portes demain. Et demain, justement, commencera l'autre grande opération, la vaccination. Tous les habitants majeurs du quartier vont devenir un public prioritaire et 19 000 doses vont arriver pour les vacciner, explique Benjamin Davillère de l'ARS Nouvelle-Aquitaine.
On est en train de se mettre en ordre de marche pour permettre dès demain midi la possibilité donc aux patients de ce quartier, de prendre un rendez-vous sur les plateformes en ligne. On va aussi, pendant cet enjeu de proximité, mettre en place un centre de vaccination éphémère, a priori mercredi.
Dans les faits, un centre de vaccination accepte dès aujourd'hui quelques habitants du quartier, mais seulement s'il reste des doses.
Johanna Chabaz dans le quartier Bacalan à Bordeaux pour Europe 1. Notez que depuis aujourd'hui, la vaccination est ouverte aux professions prioritaires, quel que soit leur âge, enseignants, policiers, caissiers, conducteurs de bus, mais aussi professionnels de la petite enfance ou encore surveillants pénitentiaires. Au dernier décompte, plus de 23 millions de Français ont reçu au moins une dose. Cela représente plus d'un tiers de la population. Vous étiez nombreux sur la route ce soir pour conclure ce week-end prolongé de 3 jours, le premier depuis la réouverture des terrasses de cafés et restaurants. Et même si le soleil est souvent resté confiné, un air de liberté a soufflé sur toute la France, comme à Nantes où les commerçants en ont bien profité, Charles Guyard.
Oui, et même si quelques boutiques étaient fermées en ce lundi de Pentecôte, d'autres sont restées ouvertes et a priori elles ont bien fait car malgré une météo assez maussade, les passants étaient plutôt nombreux dans les rues aujourd'hui, comme durant tout ce premier long week-end post-confinement strict qui a bien marché pour Annabelle. Elle est vendeuse en prêt-à-porter.
Samedi était une belle journée de vente, il y a eu beaucoup de monde. Plein de vie, on retrouve nos habitudes. Donc, une très belle journée malgré le temps un petit peu entre deux.
Un peu plus loin, Stéphane tient les fameuses rigolettes nantaises, une adresse incontournable qui a aussi vu défiler plus de monde depuis vendredi.
Ce week-end, on a nos amis parisiens quand même, mais beaucoup de gens de l'Est de la France et puis des gens du Nord. On entend des accents qu'on n'avait plus l'habitude d'entendre et puis là, on sent quand même que l'été arrive, donc tout le monde est un peu plus serein et ça fait plaisir.
Un plaisir qui devrait davantage se ressentir en fin de semaine et pour le prochain week-end avec le retour annoncé du beau temps.
On espère, Charles Guyard, correspondant d'Europe 1 à Nantes. Décidément, la campagne des régionales est agitée. Après le feuilleton Les Républicains, La République en marche en PACA, il y a maintenant cette passe d'armes entre Audrey Pulvar et le ministre de l'Intérieur. Gérald Darmanin a annoncé porter plainte contre la candidate socialiste au régional en Ile-de-France. Il l'accuse d'avoir diffamé les forces de l'ordre pour avoir qualifié de glaçante la manifestation de policiers mercredi dernier devant l'Assemblée nationale. Audrey Pulvar a immédiatement contre-attaqué. Son avocat a déposé une plainte devant la Cour de justice de la République pour dénonciation calomnieuse. Pour maître Patrick Lugman, le rôle d'un ministre de l'Intérieur, c'est de protéger la liberté d'expression, pas d'attaquer en justice les candidats de l'opposition.
Donc cette situation est tout à fait inquiétante. Elle est inédite. C'est évidemment une tentative d'intimidation de la part du ministre de l'Intérieur à l'encontre d'une candidate et nous n'entendons pas nous laisser faire et nous entendons la dénoncer. C'est une tentative d'assignation au silence d'un candidat à une élection et je rappelle que le ministre de l'Intérieur, il devrait être garant du pluralisme démocratique, donc de la liberté d'expression de Madame Bulvar. Et je vous rappelle que dans notre espace juridique, la liberté d'expression, particulièrement en période électorale, particulièrement de la part d'une candidate à une élection, elle est entendue de manière plus extensive que d'ordinaire.
Maître Patrick Klugman, l'avocat d'Audrey Pulvar au micro Europe 1 et d'Hélène Terzian. Après la fête jusqu'au bout de la nuit hier soir, c'est avec des cernes mais un sourire éclatant que les supporters du LOSC ont cet après-midi salué leur héros. Tout juste sacré champion de France de football, les joueurs lillois ont paradé dans la ville sur un bus à Impérial. Mais avant, ils s'étaient vus remettre le fameux Hexagone, le trophée de la Ligue 1, Lionel Gougelot.
Oui, et c'est sous une pluie battante que ces joueurs lillois ont enfin pu soulever ce trophée. Devant les salariés du club et quelques dizaines d'invités rassemblés au centre d'entraînement, ils ont savouré encore cet exploit inattendu, surclassé un Paris Saint-Germain réputé intouchable. Benjamin André, le milieu de terrain, ne réalise toujours pas.
Pour l'instant, tu ne te rends pas compte. J'ai un peu le même sentiment. J'ai gagné la Coupe de France à Rennes, où ça faisait très, il y avait une attente énorme. J'ai un peu ce même sentiment où le lendemain, en fait, tu n'as pas le temps de te poser, ça ne redescend pas encore. Je pense qu'on prendra vraiment conscience dans une ou deux semaines quand on sera en vacances. Et de te dire que ce pari-là, qui est intouchable normalement, on l'a fait, on les a battus et on ne doit rien à personne parce que finalement, on aura battu tous nos concurrents directs.
Puis en fin d'après-midi, la communion avec le public et les supporters dans les rues de Lille sur le toit d'un autobus à Impérial. Kevin profite de l'instant sans modération.
On ne sait pas quand est-ce qu'on va revivre ça, donc on profite. Hein. C'est important, bon, on espère tous les ans, mais on n'est pas Paris. Donc,
Elle vous a fait rêver cette équipe cette année ?
Bien sûr qu'elle m'a fait rêver. Le seul regret, c'est que je suis abonné tous les ans et que cette année, j'ai pas pu le faire. Sinon, évidemment que j'aurais été les voir, mais on est là pour les supporter et on le fera toujours.
Une parade qui s'est achevée en début de soirée dans le quartier de la mairie de Lille. Dans quelques jours maintenant, certains joueurs rejoindront leurs sélections nationales respectives en attendant la prochaine saison où le LOSC devra défendre son titre de champion.
Merci Lionel Gougelot, correspondant d'Europe 1 à Lille. Toujours en foot, cette énorme surprise, le capitaine de l'Espagne et défenseur du Real Madrid, Sergio Ramos, n'a pas été retenu dans la liste des joueurs qui disputeront l'Euro le mois prochain. Il n'a quasiment pas pu jouer cette saison en raison de blessures, s'est justifié le sélectionneur espagnol Luis Enrique. Et c'est la première fois dans l'histoire de la Rora qu'aucun joueur du Real ne jouera l'Euro. Et Sergio Ramos est remplacé par le français Emeric Laporte, tout juste naturalisé espagnol. Non, il n'a pas consommé de drogue en plein concours de l'Eurovision. Le chanteur du groupe italien Maneskin, qui a été sacré, a comme promis passé un test antidrogue. Résultat négatif. La polémique était née d'une vidéo où l'on voyait l'artiste se baisser et toucher une table avec son nez en plein direct. On termine avec une autre vidéo qui fait beaucoup réagir et qui compte ce soir près de 9 millions de vues sur la chaîne YouTube de McFly et Carlito. Le créneau de ces deux jeunes hommes, c'est les concours d'anecdotes avec des personnalités. Et bien cette fois, ils ont tourné à l'Élysée avec Emmanuel Macron. Et à la fin de cette vidéo, mise en ligne hier, les youtubeurs font une surprise au président. Ils ont demandé à un groupe de musique de métal, en l'occurrence, de se cacher au fond du jardin de l'Élysée et de jouer quelques notes face au chef d'État hilar. Ce groupe s'appelle Ultra Vomit. Qui sont-ils, Angèle Châtelier ?
Ultra Vomit ne sont pas très connus du grand public, mais dans la sphère de ce genre de musique, beaucoup. Ils ont d'ailleurs joué deux fois au Hellfest, le prestigieux festival pour les amoureux de métal. Alors Ultra Vomit viennent de Nantes et sont populaires parce que leur marque de fabrique, c'est de parodier des tubes du top 50, par exemple, ou bien des comptines. Dans la vidéo de McFly et Carlito, après quelques notes de la Marseillaise, ils ont repris une souris verte, par exemple, dans une version qui n'est pas vraiment faite pour s'endormir, disons. En fait, Ultra Vomit font de la musique surtout pour faire rire et ils ont une grosse communauté de fans, mais ils ont été la cible de certains d'entre eux sur les réseaux sociaux après la publication de la vidéo. Bravo les gars, vous allez contribuer à la réélection d'Emmanuel Macron, a dit un fan. Vous bossez pour l'Elysée maintenant ? La honte, a fustigé un autre. Le groupe, quant à lui, a réagi sur son compte Facebook en déclarant « On savait que ça allait faire tiquer ».
Effectivement, ça ravigote. Merci Angèle Châtelier. On passe à la météo. Et c'est avec vous la météo, Anissa Haddadi, avec au programme demain, toujours pas mal d'averses.
Oui, avec encore pas mal d'ondées, Julien, toute la journée demain et dès le matin, de nombreuses régions sont concernées, principalement au nord, avec en Bretagne, Normandie, Hauts-de-France, jusqu'en Alsace, des averses qui durent toute la journée. En Nouvelle-Aquitaine et en Auvergne, là aussi, le temps est humide. Sur la moitié nord du pays, le vent d'ouest souffle encore demain en plus des averses. Et puis dans les Vosges, nous aurons là des flocons à partir de 1000 mètres d'altitude et 1200 mètres dans les Alpes. Sur le reste du pays, dans l'après-midi, le temps va légèrement se calmer sur la moitié sud avec des éclaircies, un petit peu moins d'averses. Dans le sud, au bord de la Méditerranée et en Corse, là nous aurons un soleil généreux dans un ciel quasiment sans nuages. Mais attention, le vent reste sensible et fort, même jusqu'à 100 km/h sur les caps corses. C'est toujours au nord de la Loire que le temps restera encore très humide demain. Les températures, elles sont stationnaires le matin avec 5 degrés à Châteauroux, 6 à Poitiers et Belfort, 8 degrés à Lyon, Lille et Paris, 10 pour Bordeaux et 14 à Perpignan. Et puis au meilleur de la journée, ça reste frais pour la saison avec 13 degrés à Boulogne-sur-Mer, 15 degrés à Paris, Saint-Étienne et Rouen, 19 à Lyon, 21 degrés pour Carcassonne et la maximale est prévue pour Bastia avec 24 degrés.
Merci Anissa Haddadi. Europe 1. Restez avec nous dans un instant, toutes les infos de la bourse. Top à Wall Street avec Didier Hamo de boursier.com, suivi d'Interview Echo. Les campings viennent de connaître des week-ends historiques en termes de fréquentation. Et pour en parler, Elisabeth Assayag et Emmanuel Duteil ont reçu Alain Calmé, le président de European Camping Group. A tout de suite sur Europe.
Europe Soir, le 22-22-30, Julien Pierce.
22h17 sur Europe 1, bienvenue à vous. Si vous venez de nous rejoindre, c'est l'heure de Top à Wall Street. Et c'est avec Didier Hamo de boursier.com. Bonsoir Didier.
Bonsoir Julien.
Wall Street débute la semaine en forte hausse grâce au rebond des valeurs de technologie.
Ça commence bien. Oui, le Dow Jones monte de 0,54%, 34 394 points. Et surtout le Nasdaq bondit d'1,4%. L'indice des valeurs de technologie est à 13 661 points. Plusieurs membres de la réserve fédérale américaine sont venus rassurer les investisseurs sur l'aspect passager du regain d'inflation observé aux États-Unis, liée à la forte reprise de l'activité post-Covid. Du coup, les valeurs de technologie sont les premières à en profiter. Elles avaient pas mal baissé ces dernières semaines. Apple remonte d'1,3% à 127 dollars. On a des hausses assez nettes de 2 à 3% sur Microsoft, sur Facebook, plus 2,6%, sur Google, plus 2,9%. Tesla gagne même plus de 4%, 606,40 dollars, plus 4,4% exactement. Le pétrole aussi en profite pour remonter. Il avait bien baissé la semaine dernière, plus 3,3%. On est de nouveau sur les 66 dollars le baril et du coup Exxon gagne ce soir 1,1% et remonte proche des 60 dollars. L'euro reste toujours assez stable, assez ferme, au-dessus des 1,22-1,22-20 face au dollar.
La Bourse de Paris a, elle aussi, clôturé en hausse, de retour au-dessus de la barre des 6400 points.
Oui, alors c'était calme, évidemment, c'était la Pentecôte, mais le CAC a quand même gagné 0,3%, 6408 points, oui, au-dessus des 6004, plus 0,35% exactement. Le CAC 40 remonte en direction de ses meilleurs niveaux depuis 20 ans, donc les valeurs pétrolières ont rebondi avec le baril, Technip Énergie plus 1,3%, CGG plus 0,7%, Total est à 39 euros en hausse aussi de 0,10%, puis quelques grandes valeurs industrielles. On fait la tendance, comme on dit. On a LafargeHolcim qui gagne 2% à 49,39 euros. Bonne tenue aussi des valeurs automobiles. Renault plus 1,4% à 33 euros. Stellantis remonte de 0,7% et Valeo aussi gagne 1,2%. Valeo à 26,13 euros ce soir.
Exception du jour, le titre Solution 30 qui a chuté de 70%.
Oui, c'est la grosse gamelle. Le titre était suspendu depuis 15 jours. Tout le monde attendait cette reprise de cotation. Après les derniers événements, il y en a eu beaucoup sur Solution 30, l'installateur de compte Linky. Chute finalement de 70%, 3 euros seulement. Le cabinet qui audite le groupe Solution 30 s'est dit dans l'impossibilité d'exprimer une opinion sur les comptes du groupe. Alors évidemment, ça fait désordre. Le dossier est sous la pression du fonds Muddy Waters depuis des mois en Bourse de Paris. Un nouvel épisode qui va donc laisser des traces chez les actionnaires. Cette baisse spectaculaire ce soir de 70% du titre Solution 30 à 3,05 euros. Les autres places financières étaient très calmes, évidemment, avec la Pentecôte. Madrid est stable, Amsterdam plus 0,5% quand même. On rappelle le CAC 40 donc en hausse de 0,35% à 6408 points.
Merci beaucoup Didier Hamo de boursier.com et à demain Didier. 22h20 sur Europe 1, on passe à l'interview Echo. Interview un peu particulière ce soir puisqu'elle a été enregistrée à la mi-journée dans La France Bouge avec Emmanuel Duteil et Elisabeth Assayag. C'est à vous.
Bonjour Alain Calmé. Bonjour, bonjour Elisabeth.
Vous êtes le PDG de European Camping Group. Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le numéro 1 français et européen de l'hôtellerie de plein air. Ce sont des campings, des mobilhomes. Vous êtes présent en France, en Europe. La France, c'est le pays du camping. Vous, vous avez 350 salariés. Bon, pendant l'été, ça monte beaucoup plus vite. Hein. On va en parler. Votre entreprise existe depuis une trentaine d'années. Elle est basée à Aix-en-Provence. Comment ça va pour vous?
Alors, on fait quand même des saisons difficiles avec la crise sanitaire. Le camping, c'est une révolution qui dure maintenant depuis 15 ou 20 ans avec l'arrivée des mobilhomes, qui a donné de nouvelles possibilités de confort tout en respectant l'esprit du plein air. Et alors c'est vrai qu'avec la crise, d'un côté, on a perdu notre clientèle internationale, mais de l'autre, les Français étaient au rendez-vous et ils ont bien vu le plein air comme un axe de sécurité, en plus d'être une grosse demande de toute façon.
Le week-end de la Pentecôte est en train de se terminer. Le week-end de l'Ascension, si on regarde les bouchons sur les routes et dans les trains, a été, semble-t-il, extraordinaire. Est-ce que vous le vivez ? Est-ce que vos campings étaient tout simplement pleins ?
Alors, on le vit avec la clientèle française. Comme le nom l'indique, European Camping Group est très international. La marque française, c'est Omer Vacances, qui est bien connue maintenant des Français. Et Omer Vacances, oui, a fait des week-ends exceptionnels, avec des réservations qui sont arrivées très tard, un peu en dernière minute.
Vraiment, exceptionnel, ça veut dire beaucoup plus qu'une année normale ?
Le week-end dernier, par exemple, on a battu, durant le week-end, notre record de vente historique, même des années pré-Covid.
Ça signifie quoi, un record de vente historique ?
Ça veut dire que, je crois, de mémoire, rien que sur les deux jours du week-end, on a fait plus de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, ce qui, pour nous, est beaucoup. Mm-hmm. D'habitude, les réservations commencent à monter en puissance dès le mois de janvier. Cette année, il ne s'est rien passé au mois de janvier, ni au mois de février, ni au mois de mars. On avait beaucoup de retard. Tout a démarré quand on a commencé à annoncer le déconfinement, vers le mois d'avril. Et depuis, vraiment, chaque semaine est plus puissante que la semaine d'avant. Et effectivement, c'est comme ça qu'on remplit les week-ends.
Donc ça signifie que ce sont des réservations de dernière minute ? C'est comme ça que ça se passe maintenant, la façon de réserver ses vacances ?
C'est pas de la vraie dernière minute, parce que c'est quand même rarement 24 heures avant le départ. Mais dans notre métier, on était habitué à prendre des réservations 6 mois avant le départ, avec les réservations qui commencent en janvier pour partir en juillet. Là maintenant, c'est plutôt un mois ou deux avant le départ, parce que les gens ont attendu d'être sûrs de pouvoir venir.
Bien sûr, alors week-end record, ça c'est quand même vachement intéressant à savoir sur le week-end de l'Ascension, et ça se porte bien également sur ce week-end de la Pentecôte. On regarde l'été prochain, là quand il y aura enfin du soleil à peu près sur la France. Ça y est, les réservations arrivent ?
Oui, les réservations démarrent. Les gens ont compris qu'on a une bonne fiabilité, je dirais, dans la météo gouvernementale, de pouvoir venir en vacances. Et donc les Français en particulier qui n'ont
pas
de frontières à franchir.
Ça veut dire quoi ? Là, vous dites que le gouvernement français a rassuré notamment les touristes étrangers et les touristes français sur le fait qu'on pourra être en vacances cet été. C'est ça que vous dites ?
Sur les touristes français, je pense que c'est clair. Et on le voit vraiment dans les prises de réservation. Et tous ces gens qui nous disaient dans toutes nos études pendant l'hiver que vraiment ils avaient envie de venir en vacances, eh bien maintenant, ils passent à l'acte.
Alors ça signifie qu'avec la levée des jauges au 30 juin, vous pouvez nous dire là aujourd'hui que l'été sera normal pour vous ?
Si ça continue à se passer comme on le voit en ce moment, ça deviendra normal. Après, avec la crise du Covid, pendant les 12 derniers mois, on a appris
c'est
à être
vrai,
prudent.
On a appris beaucoup à
donc,
dire si.
Nous, ce qu'on a fait en tout cas, c'est qu'on offre à tous nos clients des possibilités d'annulation s'il se passe quoi que ce soit d'anormal sur la crise Covid. Donc les gens peuvent réserver si demain, pour n'importe quelle raison, un variant indien ou n'importe quelle nouvelle difficulté survenait, ils seraient complètement remboursés. Ça les permet de réserver sereinement.
Il y a quelques jours sur l'antenne d'Europe 1, le nouveau patron de l'Office du tourisme de Paris disait « Alors, les réservations sont quasiment zéro pour les étrangers, mais depuis quelques jours, c'est en train de bondir de façon assez exceptionnelle. » Est-ce que vous le vérifiez, vous aussi ?
Alors, ça dépend des pays. On voit les Hollandais qui recommencent à réserver, d'abord prudemment, maintenant un peu plus fortement, depuis 3 semaines. Les Allemands depuis 1 semaine, les Anglais pas encore.
Clément Beaune, qui est le secrétaire d'État aux affaires européennes, sur l'antenne d'Europe 1, a dit « C'est un élément d'attractivité, on va rendre les tests PCR gratuits pour les étrangers qui vont venir passer des vacances chez nous en France. » Pour vous, c'est le genre de mesure indispensable pour qu'on soit toujours première destination mondiale française et pour qu'il y ait des étrangers présents dans vos campings ?
Alors, je pense que c'est indispensable, et la France le fait d'ailleurs très bien. Et ce qui est regrettable par contre, c'est que pour l'instant, ce n'est pas coordonné au niveau européen. Et donc il y a beaucoup de pays européens où les gens doivent faire le test PCR avant de passer la frontière. Et ça peut être très cher. Quand vous avez des tests à 150 €, que vous êtes une famille de 4 personnes, vous avez déjà dépensé 600 € avant même d'avoir franchi la frontière. C'est compliqué. Pour les Anglais, qui certes sont maintenant en dehors de l'Europe, il faut un test PCR au départ et puis deux autres au retour. Donc ça fait trois tests par personne. Là, ça devient un vrai problème.
Qui est le client type, un petit peu, de vos campings, Alain Calmé ?
Alors, le client type, il a beaucoup changé pendant les 10 dernières années au fur et à mesure que les mobilhomes se sont multipliés dans les campings, en particulier dans les campings bien placés. Et je dirais qu'aujourd'hui, le client type, c'est le français, la courbe de catégorie socio-professionnelle de la France, en fait. Et comme le dit l'un de mes directeurs, vous savez, monsieur Calmé, chez moi, il y a des ouvriers, il y a aussi des chirurgiens et tout le monde passe de bonnes vacances.
Parce que c'est un art de vivre avant toute chose ? C'est des vacances différentes, en plein air ?
Oui, c'est des vacances un peu différentes. D'abord, il y a l'esprit du camping qui essaye de perdurer, même si clairement le mobilhome, c'est plus tout à fait la même expérience que la tente dans les années 30.
Mobilhome, c'est la petite maison.
Le mobilhome, c'est une petite maison, voilà, c'est très confortable, mais ça reste. Il y a tout le confort, mais ça reste un habitat léger. Moi, je dors assez souvent dans mes mobilhomes. Quand il y a un écureuil qui se balade sur le toit, vous l'entendez. C'est sympa, vous êtes quand même beaucoup plus proche de la nature que dans un bâtiment en béton. Et donc, cette expérience-là, cette expérience de plein air, elle tente beaucoup les gens. C'est aussi la convivialité. Et puis, en même temps, il faut le dire, les campings ont beaucoup investi pendant 10 ans sur des infrastructures comme des centres aquatiques, des toboggans aquatiques, etc. Et ça, ça fait venir aussi les enfants.
Mais beaucoup d'habitués disent, c'est un peu dommage, on a perdu cet esprit du camping d'il y a justement 20 ans. On arrivait avec la caravane, on arrivait avec la toile de tente. Et avec une nouvelle génération qui aime beaucoup aujourd'hui faire des vacances à vélo. On l'a vu, par exemple, l'année dernière, ça a été un boom gigantesque. Et là, à vélo, on aime bien trimballer sa petite toile de tente, se mettre sur des petits emplacements et repartir au bout de quelques jours. Est-ce que vous allez aussi un petit peu vous adapter à ces nouveaux modes de vacances ?
Je dirais que le camping n'a jamais perdu la toile de tente et même dans les campings de luxe tout près de la plage, il y a encore des emplacements nus. C'est rarissime qu'il n'y ait pas des emplacements pour accueillir les campeurs. Bien sûr, quand on est au centre de la France, les campings là sont restés beaucoup plus dans leur configuration initiale, avec beaucoup d'emplacements nus, beaucoup de verdure, très peu de mobilhomes, parce que le mobilhome c'est aussi un équipement qui coûte très cher, donc pour le rentabiliser, il faut être dans une station balnéaire ou dans un endroit très attractif.
C'était Alain Calmé, président de European Camping Group, qui était à la mi-journée sur Europe 1, l'invité de La France Bouge avec Elisabeth Assayag et Emmanuel Duteil. Et demain, à partir de 13h, ils nous parleront d'emploi avec leur invité Jérémy Cléda, cofondateur et PDG de Welcome to the Jungle, plateforme spécialisée dans le recrutement. 22h28 sur Europe 1, et voici donc ce que vous pourrez lire demain à la une de vos journaux. Régional, le pyromane, titre Libération, avec pour illustration un Emmanuel Macron au sourire carnassier. Finir de dynamiter la gauche et faire imploser la droite. Le chef de l'État poursuit son opération de destruction du clivage traditionnel à l'occasion des élections du mois prochain. Et Marine Le Pen, elle, s'en frotte les mains et crie Libé. Il faut reconnaître à Emmanuel Macron un vrai talent en la matière, ajoute Paul Quignot. Les tractations en PACA autour de la constitution des listes de Renaud Muselier viennent de confirmer que les membres du parti Les Républicains ne savent plus où ils habitent. LR est au bord de l'implosion. Quant au PS, il est incapable d'assumer son leadership à gauche. Les écologistes, eux, sont trop divisés et immatures, tout comme la France insoumise. Et comme la nature politique a horreur du vide, c'est le RN qui profite de la faiblesse des autres formations, analyse l'éditorialiste de Libération. Et après les régionales, il y aura la présidentielle. Macron, Le Pen, Bertrand, le match s'installe pour 2022, titre Le Figaro, qui publie demain une enquête IFOP fiduciale. On y apprend que la candidate du RN arriverait en tête du premier tour avec 27% des intentions de vote, et ce devant le chef de l'État avec 25% des suffrages. Xavier Bertrand arriverait en troisième position s'il était le seul représentant de la droite. Le président des Hauts-de-France obtiendrait 15% des votes. Le Figaro qui évoque également cette affaire qui embrase la diplomatie internationale, on en parlait en début de journal, la Biélorussie en accusation après le détournement d'un avion Ryanair, titre Le Quotidien. Le scénario est digne d'un film de James Bond, écrit pour sa part Laurent Baudin dans l'Alsace. Des avions de chasse d'une ancienne république soviétique décollant sur ordre d'un président autoritaire pour contraindre un avion de ligne d'une compagnie étrangère à atterrir sur son territoire afin d'interpeller des opposants avant de tenter de maquiller l'opération sous un prétexte terroriste fallacieux. Bref, tous les ingrédients d'un polar écrit durant la guerre froide sont réunis et malheureusement, la réalité a dépassé la fiction, ajoute l'éditorialiste qui espère une réponse implacable de l'Union européenne. Elle est tombée ce soir, Isabelle Horry nous le disait il y a quelques minutes. On termine avec cet avertissement en une du Dauphiné Libéré. L'avenir de 22 000 entreprises en suspens, gare à la reprise, titre Le Quotidien régional. Et si la réouverture des terrasses et des commerces a permis d'offrir un bol d'air aux professionnels du secteur, pour bon nombre d'entreprises, des problèmes européennes sont encore loin d'être derrière elles. Elles sont 22 000 donc, qui seraient en sursis et à la fin progressive des aides gouvernementales pourraient accélérer leur faillite. À lire donc demain dans le Dauphiné Libéré.